Imaginons un instant la scène. Un homme bosse d'arrache-pied pendant 7 longues années.
Ouais, un travail physique intense, hein.
C'est ça. Et il a accepté de renoncer à tout salaire dans un seul but, épouser l'amour de sa vie. Le jour des noces arrive enfin, le festin bat son plein, la nuit tombe, il consomme le mariage dans l'obscurité, sous la tente nuptiale.
La fameuse tente.
Et le lendemain matin, avec les tout premiers rayons du soleil, il se tourne vers sa nouvelle épouse et là, ah ! Il réalise avec effroi qu'il s'est fait avoir.
La douche froide, quoi.
Exactement. Ce n'est pas la femme qu'il aime, c'est sa sœur aînée. Honnêtement, ça ressemble au point de départ d'une tragédie théâtrale ou, je sais pas, d'un drame télévisé plein de trahison.
C'est clair. On se croirait presque dans une série.
Mais pourtant, il s'agit bel et bien des fondations historiques d'une des plus grandes traditions spirituelles au monde. Alors, aujourd'hui, notre exploration nous plonge dans une saga familiale qui s'étale sur 20 ans.
20 ans de chaos, on peut le dire.
Ah ça oui, marqué par des rivalités toxiques, de l'extorsion économique et de véritables guerres psychologiques au sein même d'un foyer. Bon, décortiquons un peu tout ça si tu veux bien, c'est une histoire de fou, non ?
Bah, c'est une période fascinante en fait. Ça couvre tout le long exil de Jacob chez son oncle Laban. Mais pour vraiment comprendre la psychologie des événements, il faut d'abord se replacer dans le contexte géographique et émotionnel.
Ouais, il n'arrive pas de nulle part.
Non, voilà. Jacob arrive à Padan Aram, dans la région de Haran, et il n'y va pas du tout pour faire du tourisme. Hein.
C'est un fugitif, en gros.
Exactement. Il vient de voler la bénédiction patriarcale à son frère aîné, Ésaü, et ce dernier a juré de le tuer.
Ambiance familiale sympa.
Très sympa, oui. Jacob a donc fui pour sauver sa peau, et si on relie ça à une vision un peu plus large, juste avant d'arriver, il avait cette expérience spirituelle fondatrice à Bethel.
Ah oui, le fameux rêve de l'escalier, c'est ça.
C'est ça, l'escalier céleste, où Dieu lui promet protection, et surtout un retour sur ses terres. Mais au moment précis où il pose le pied chez Laban, Jacob, lui, il est super vulnérable.
Bah oui, il est seul, fatigué.
Il cherche désespérément un refuge familial, une sécurité.
Et l'ironie cruelle de l'histoire, c'est qu'en fuyant la fureur de son frère, il se jette littéralement dans la gueule du loup, quoi.
C'est le cas de le dire.
Il pense trouver un oncle bienveillant et paf, il tombe sur un maître absolu de la manipulation. Toute cette période de sa vie semble d'ailleurs encadrée par ce concept de fuite perpétuelle, tu trouves pas ?
Si, totalement. Fuir Ésaü au début, fuir Laban à la fin.
Voilà. Mais avant d'en arriver à la grande évasion, tout commence de manière presque idyllique. Genre comme un conte de fées, en fait. Il y a cette rencontre super classique au puits.
Le grand classique de la littérature antique.
Ouais, et ça résonne étrangement avec l'histoire de sa propre famille, non ?
Absolument. La structure du récit ancien utilise très souvent ces espèces d'échos narratifs pour faire passer un message. Quand Jacob arrive au puits et voit Rachel, la fille de Laban, arriver avec son troupeau, le texte nous dit qu'il déploie une force physique impressionnante.
Il soulève une pierre énorme, c'est ça ?
Il roule à lui tout seul la lourde pierre qui protège Lou, ouais, pour abreuver les bêtes. Et ça, c'est un miroir presque parfait, mais inversé, de la façon dont sa propre mère, Rebecca, avait abreuvé les chameaux du serviteur d'Abraham au même endroit.
Ah, genre des décennies plus tôt au même endroit,
ouais.
C'est fou.
Exactement. Et cet acte de Jacob démontre non seulement sa force, mais aussi un élan passionnel immédiat, quoi.
Un élan tellement fort qu'il le conduit à faire une offre qui, d'un point de vue purement financier, est juste délirante.
Ah oui, c'est clair.
Jacob n'a rien sur lui. Il a dû fuir précipitamment, donc il n'a pas la fameuse dot traditionnelle exigée à l'époque pour demander de moi. Alors, il propose de payer avec son propre corps, avec son temps.
7 ans de sa vie, quand même.
7 ans de travail agricole intense pour épouser Rachel, la cadette. Et le détail qui frappe toujours l'esprit quand on lit ses sources, c'est cette phrase qui dit que ces 7 années lui ont paru n'être que quelques jours tellement il l'aimait.
C'est profondément romantique, c'est vrai.
C'est super beau, ouais. Jusqu'au fameux matin de la désillusion, quoi. Et là, il faut vraiment s'arrêter sur la mécanique de cette trahison. Parce que, techniquement, comment c'est possible ?
Ouais, on se demande bien.
Bah oui, comment un homme peut-il ne pas reconnaître la personne qu'il épouse et, enfin, avec qui il passe la nuit ?
Bah, c'est une question tout à fait légitime pour un esprit moderne, hein. Mais le contexte des pratiques nuptiales du Proche-Orient ancien rend la supercherie tout à fait plausible, voire inévitable.
Ah bon ? Comment ça ? Ivra ?
Sans doute, ouais. Ensuite, la mariée était traditionnellement amenée sous une tente nuptiale spécifique à la nuit tombée. et il n'y avait absolument aucun éclairage artificiel. L'obscurité était totale.
Rien du tout, le noir complet.
Le noir complet. De plus, la coutume voulait que la mariée soit lourdement voilée, tu sais, parfois couverte de multiples épaisseurs de vêtements cérémoniels.
Ah, donc Laban a juste utilisé tout ça à son avantage.
Exactement. Laban a utilisé tous ces éléments environnementaux et culturels pour substituer Léa à Rachel en douce. Jacob s'est fié à ce qu'il croyait être un accord de bonne foi et il n'a pas cherché à vérifier sous le voile.
C'est l'équivalent antique de signer un contrat de travail de 7 ans, de t'installer à ton nouveau bureau le premier jour et de découvrir qu'une clause abusive rédigée à l'encre invisible t'oblige à faire un tout autre métier, quoi.
C'est une excellente comparaison, oui.
Et la défense de Laban est d'un cynisme absolu. Il se contente de dire que c'est pas dans la coutume locale de donner la cadette avant l'aîné.
Il sort cette règle de nulle part.
C'est ça, il sort une règle coutumière de son chapeau, une règle dont il s'est bien gardé de parler pendant 7 ans. Et paf, la sentence tombe, un nouveau contrat. Jacob devra travailler 7 années supplémentaires pour obtenir Rachel.
C'est vraie extorsion pure et simple.
Mais au-delà de l'injustice, il y a un effet de miroir psychologique qui est fascinant ici. Jacob, le gars qui s'était couvert les bras de peau de chèvre pour tromper la cécité de son vieux père Isaac dans l'obscurité d'une tente...
Oui, il se retrouve trompé de la même façon.
Voilà, il se retrouve lui-même trompé dans l'obscurité d'une tente. C'est le karma, en fait.
Cette observation est fondamentale. Le texte opère une critique morale redoutable par l'ironie, en fait. Le grand manipulateur, celui dont le nom même évoque le fait de supplanter ou de tromper, trouve enfin son maître.
L'arroseur arrosé, quoi.
Exactement. Et tu te souviens, lorsque Laban avait accueilli Jacob des années plus tôt, il lui avait dit « tuer ma propre chair et mon propre sang ».
Ouais, genre « bienvenue dans la famille ».
C'est ça. Mais cette déclaration d'appartenance familiale devient ironiquement le piège qui va broyer Jacob. Et... là, il est vital de souligner que, dans l'analyse de ces récits, la présence d'une tromperie n'équivaut absolument pas à une approbation divine.
Oui, Dieu ne cautionne pas cette arnaque.
Non, l'auteur ne dit jamais que l'extorsion de Laban est juste. Cependant, il y a cette notion théologique assez profonde que les événements sont supervisés. Le creuset de ces 14 années de dur labeur et d'humiliation sert à briser l'arrogance de Jacob.
Ah, donc ça forge son caractère, en quelque sorte.
Oui, la tromperie devient l'instrument de sa formation caractérielle. Dieu utilise ça.
Sauf que cet instrument de formation va engendrer des dommages collatéraux terribles. On quitte le terrain du litige contractuel pour entrer dans la création du foyer le plus dysfonctionnel qui soit.
Un cauchoir domestique.
C'est clair. Léa et Rachel se retrouvent mariées au même homme, sous le même toit. La rivalité devient viscérale. D'un côté, on a Léa, la sœur aînée imposée, qui souffre horriblement de ne pas être aimée.
Une souffrance qu'on ressent bien dans le texte.
Et de l'autre, Rachel, passionnément aimée, mais incapable de concevoir. La tension monte tellement que Rachel finit par hurler à Jacob « Donne-moi des enfants ou je meurs ».
Ouais, le désespoir total.
C'est d'une violence psychologique inouïe, non ?
La dynamique de cette rivalité est déchirante parce qu'elle touche à l'essence même de la valeur d'une femme dans cette culture antique, tu vois.
C'est-à-dire ?
La maternité garantissait la sécurité sociale et le statut au sein du clan. Une femme sans enfant était très vulnérable. Le récit note d'ailleurs que, face à la détresse de Léa, qui est mal aimée, une forme de compassion divine intervient pour lui accorder la fertilité.
Elle enchaîne les garçons, oui.
Exactement. Et Rachel, elle, rongée par la jalousie face aux grossesses répétées de sa sœur, décide alors de recourir à une pratique légale de l'époque. Une pratique attestée par les codes de loi anciens. Hein.
Ah oui, le coup des servantes.
Oui. Elle offre sa servante Bila à Jacob pour obtenir des enfants par procuration.
Et bien sûr, Léa, qui ne veut surtout pas perdre son avantage dans cette guerre, réplique en donnant sa propre servante. Zilpa, c'est une véritable course aux armements, mais avec des grossesses.
C'est exactement ça, une compétition acharnée.
On arrive finalement à 12 fils, les fameux futurs patriarches des 12 tribus, dont Joseph, l'addition tant espérée par Rachel. Mais au milieu de cette guerre d'usure, il y a un détail super précis qui montre à quel point leur désespoir brouille complètement leur bon sens. C'est l'épisode des mandragores.
Ah, les fameuses mandragores.
Non mais ces femmes commencent à se battre pour des plantes, littéralement. C'est quoi ce truc ?
Les mandragores offrent une fenêtre exceptionnelle sur la mentalité de l'époque. Ce sont des plantes à fruits un peu jaune-rouge qui poussent au printemps, au Moyen-Orient. Mais ce qui intéressait les anciens, c'était surtout la racine.
La racine, pourquoi ?
Parce que la racine de la mandragore a la particularité visuelle de ressembler fortement à un corps humain, au torse et aux jambes d'un humain en fait.
Ah, genre une petite silhouette ?
Voilà. Et en raison de cette forme, La croyance populaire, basée sur le principe de la magie sympathique, l'idée que ce qui ressemble à une chose peut influencer cette chose, en faisait un remède censé être très puissant contre la stérilité et un aphrodisiaque.
Attends. Analysons bien ça. Ces gens sont censés être les dépositaires de l'Alliance divine, les fondateurs d'une grande lignée monothéiste, quoi.
Absolument.
Et pourtant, face à la crise, elles se tournent vers des espèces de racines magiques pour manipuler leur destin reproductif. Ça semble complètement contradictoire avec l'idée d'une foi pure.
Ouais, et ça, ça soulève une question cruciale. C'est précisément l'intérêt de conserver ces détails hyper bruts dans les sources historiques. Ça nous prouve que la théologie de ces familles était encore en plein développement.
Il tâtonnait, quoi.
C'est ça. Elle était souvent entachée de syncrétisme. Jacob et ses épouses connaissent très bien l'existence du dieu de Bethel. Ils le prient, mais en parallèle, ils n'hésitent pas à s'appuyer sur des superstitions paysannes et des mécanismes païens.
Pour essayer de forcer un peu la main du destin.
Exactement. Le texte ne cache absolument pas leurs défauts théologiques. Au contraire, il met en lumière une réalité stupéfiante. L'accomplissement des promesses divines ne dépendait pas de l'orthodoxie parfaite ou de la moralité irréprochable de cette famille.
Dieu fait avec ce qu'il a, en gros.
La grâce opère à travers leurs connaissances limitées, ouais, les rejoignant là où ils se trouvent.
C'est un concept puissant, ça. L'idée qu'un plan historique majeur puisse avancer non pas grâce à la perfection des acteurs, mais presque en dépit de leurs tentatives super maladroites.
C'est tout à fait ça.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Parce qu'on retrouve exactement cette même dynamique magique et superstitieuse quand le conflit se déplace du terrain familial au terrain économique.
La fameuse affaire des troupeaux.
Ouais. Les 14 années de travail pour les épouses s'achèvent enfin. Jacob veut partir, il veut fonder sa propre maison. Mais Laban, voyant que la présence de Jacob a fait fructifier son domaine de manière spectaculaire, il refuse de laisser filer.
Il veut garder sa poule aux œufs d'or.
C'est clair. Il instaure alors un système de métayage où il n'arrête pas de modifier les conditions. Genre, le texte dit qu'il change le salaire de Jacob 10 fois. 10 fois.
Alors, l'utilisation du chiffre 10 dans ce contexte littéraire ne doit pas être pris comme un compte précis au sens mathématique du terme.
Ah, c'est une façon de parler.
Oui, c'est plutôt un symbole de totalité. Dire que Laban a changé le salaire 10 fois, ça équivaut à dire qu'il l'a modifié systématiquement à chaque opportunité, épuisant toutes les méthodes possibles pour escroquer Jacob. Laban agit avec la certitude écrasante que son pouvoir local le rend intouchable.
Pour reprendre une image plus moderne, Laban agit comme le directeur d'un casino un peu véreux, tu vois.
C'est une bonne image, ouais.
Jacob est à la table de roulette, et à chaque fois qu'il mise sur le rouge, Laban modifie les règles et dit « Bah non, c'est le noir qui gagne. » Jacob demande des agneaux tachetés comme salaire.
Laban s'arrange pour les faire disparaître.
Voilà, Laban envoie secrètement tous les animaux tachetés à 3 jours de marche pour empêcher la reproduction. Il truque littéralement le jeu. Sauf que, dans cette métaphore du casino, on réalise que c'est Dieu qui contrôle la bille de la roulette.
Exactement, le croupier invisible.
Et là, Jacob conçoit une stratégie fascinante. Il écorce des branches d'arbres, du peuplier et de l'amandier pour faire apparaître des rayures blanches sur le bois. Et il place ses branches écorcées devant les abreuvoirs, pile au moment où les bêtes les plus robustes s'accouplent.
Oui, et le résultat est assez spectaculaire.
Bah oui, paf, les bêtes donnent naissance à des petits rayés étachés, ce qui enrichit Jacob de façon exponentielle. C'est fou.
C'est un autre exemple très frappant de magie sympathique, en fait. Jacob partageait la croyance ancienne, qu'on retrouve d'ailleurs bien plus tard chez les Grecs, selon laquelle ce que la mère observe intensément au moment de la conception laisse une impression physique sur le fœtus.
Donc il pensait que regarder des rayures allait faire des bébés rayés.
Il pensait sincèrement que l'image visuelle des branches rayées allait imprimer des rayures sur la laine des agneaux à naître. Ouais.
Bon, alors on est d'accord que d'un point de vue de la génétique moderne, écorcer des bouts de bois devant des chèvres en train de s'accoupler, ça sert absolument à rien.
Exactement. Scientifiquement parlant, ça n'a aucun impact sur l'ADN du bétail. La stratégie de Jacob était scientifiquement inutile.
Zéro effet, quoi.
Zéro. Mais le résultat final a été un transfert massif de richesses de Laban vers Jacob. Pourquoi ? Encore une fois, c'est pas parce que la magie de Jacob a fonctionné, mais parce que la providence a pris le relais.
Dieu a validé le transfert, en quelque sorte.
C'est ça. La nature florissante de ces troupeaux n'était pas le fruit de ces manipulations botaniques, mais l'exécution d'un jugement divin en sa faveur. La réparation des torts causés par Laban s'est faite à travers le prisme des croyances limitées de Jacob.
C'est génial. Et inévitablement, quand le gendre s'enrichit, et que le beau-père voit ses propres profits fondre, l'atmosphère devient vite irrespirable.
Ah, ça sent la poudre.
Les fils de Laban commencent à murmurer, la jalousie s'installe, on sent que la violence physique est imminente. Du coup, Jacob organise un conseil de famille clandestin dans les champs avec Léa et Rachel.
Loin des oreilles de Laban.
Voilà. Et là, surprise, les sœurs rivales s'accordent enfin sur un point. Leur père les a traités comme de vulgaires marchandises. Il a consommé la valeur de leur dot et il ne leur laissera aucun héritage. Elles donnent donc leur feu vert pour fuir.
Une décision radicale, mais nécessaire.
Jacob profite de la saison de la tonte des moutons, tu sais, un événement qui obligeait Laban à s'éloigner de la maison pendant plusieurs jours. Il rassemble ses immenses troupeaux, il traverse l'Euphrate et prend la fuite vers les montagnes de Galaad.
La grande évasion commence.
Mais juste avant le départ, Rachel commet un acte qui, honnêtement, aurait pu coûter la vie à tout le monde. Elle vole les téraphines de son père, les idoles domestiques.
Un détail qui a toute son importance.
Moi, j'ai toujours pensé que c'était juste de la mesquinerie pure, genre une façon d'insulter son père en partant. Mais avec tout le patrimoine qui est en jeu, y avait-il un motif plus pragmatique, peut-être juridique, au fait de voler ces statuettes?
C'est une hypothèse très perspicace, et l'archéologie nous aide beaucoup là-dessus. L'étude des textes de l'ancien Proche-Orient, notamment les fameuses tablettes trouvées à Nuzi, nous éclaire énormément.
Que disent ces tablettes, du coup?
Elle montre que dans cette culture, la possession des idoles domestiques n'avait pas seulement une dimension rituelle. Elle pouvait, dans certaines circonstances, avoir une vraie valeur juridique, agissant presque comme un titre de propriété symbolique.
Ah, carrément un acte notarié, en gros.
Un peu, oui. Détenir les dieux de la famille pouvait signifier qu'on revendiquait le droit à l'héritage principal ou qu'on s'arrogeait le leadership spirituel du clan. Rachel, se sentant dépossédée financièrement par son père, cherchait très probablement à sécuriser un héritage futur ou, à minima, à priver son père du soutien supposé de ses propres dieux.
C'est audacieux. Laban, évidemment, est fou de rage en découvrant l'évasion et le vol. Il lève une milice et se lance à leur poursuite.
Il veut en découdre.
Ouais. Il lui faut une marche forcée de 7 jours pour les rattraper. La confrontation s'annonce sanglante. Laban a la supériorité numérique, il a la fureur d'un homme humilié. Mais la nuit précédant la rencontre, l'impensable se produit pour cet homme païen.
L'intervention divine directe.
Dieu fait éruption dans son rêve avec un message sans ambiguïté. Garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, en bien ou en mal. C'est un coup d'arrêt total.
Oui, et l'intervention divine prend la forme du rêve, qui était considéré comme un vecteur de communication divin majeur dans l'Antiquité, tu vois.
Même pour ceux qui ne croient pas en lui, hein.
C'est ça. Ce qui est fascinant sur le plan théologique, c'est l'étendue de l'autorité divine ici. Dieu ne se contente pas de parler à ceux qui sont dans l'Alliance, comme Jacob. Il s'immisce dans l'esprit d'un oppresseur extérieur pour imposer un bouclier protecteur autour de Jacob.
Il le paralyse, quoi.
Laban, le maître manipulateur, est brutalement stoppé dans son élan de violence par une force cosmique qui échappe totalement à son contrôle de petit chef de clan local.
Et ça rend la scène de fouille qui suit absolument dantesque. Honnêtement, on se croirait dans la scène finale d'un film de braquage hyper tendu.
C'est très cinématographique, oui.
Laban débarque dans le campement. Frustré de ne pas pouvoir user de violence physique, il se rabat sur la perquisition. Il cherche ses idoles. Il fouille la tente de Jacob, la tente de Léa et finit par entrer dans la tente de Rachel.
Le moment de vérité.
Et là, le génie narratif de l'auteur ancien explose, je trouve. Rachel a pris les dieux de son père, les a fourrés dans la sacoche d'une selle de chameau et elle s'est simplement assise dessus.
L'audace est incroyable.
Et quand Laban approche, elle reste assise et sort l'excuse ultime, le truc qui garantit que personne dans l'Antiquité n'osera la toucher ou fouiller sous elle. Elle dit genre « Que mon seigneur ne se fâche pas, mais je ne peux pas me lever, j'ai ce qui arrive aux femmes, elle prétexte ses menstruations. »
C'est un coup de maître.
Laban est mystifié par sa propre fille, c'est génial. Mais au-delà du comique de situation pure et dure, c'est un sarcasme théologique super cinglant, non?
Mais ce qui est fascinant ici, en fait, c'est que c'est l'une des critiques de l'idolâtrie les plus mordantes de toute la littérature ancienne. On assiste à un contraste saisissant si on y pense.
Vas-y, explique.
D'un côté, tu as le dieu de Jacob, invisible mais surpuissant, qui traverse les frontières géographiques, dicte l'avenir génétique des troupeaux et terrorise un chef de clan militaire dans un rêve.
Ouais, le vrai pouvoir.
Et de l'autre côté, tu as les dieux de Laban, des dieux qu'on peut voler facilement, des dieux qu'on peut cacher dans un simple sac de sel, des dieux sur lesquels une femme peut s'asseoir, prétextant une impureté rituelle menstruelle. et ces dieux sont totalement incapables de se défendre ou de crier à l'aide.
C'est pathétique pour ces dieux, quoi.
Le message est hyper clair. Laban remue ciel et terre, prêt à déclencher une guerre tribale pour récupérer des objets d'une futilité affligeante.
Et cette fouille infructueuse, elle donne enfin à Jacob l'opportunité qu'il attendait depuis 20 ans, quoi. Il explose.
La soupape lâche.
Toute la rancœur accumulée sort sous la forme d'un réquisitoire passionné. Il lui crache à la figure toutes ces années de froid glacial la nuit, de chaleur torride le jour, les troupeaux protégés au péril de sa vie, et bien sûr les salaires modifiés arbitrairement.
Il vide son sac, et il a raison.
Laban, acculé, vaincu psychologiquement et terrifié par l'avertissement nocturne de Dieu, propose un pacte de non-agression. Ils érigent une stèle, un gros amas de pierre, pour marquer une frontière définitive entre eux. Ils mangent ensemble et signent un traité de paix froid mais nécessaire.
Et le sceau de ce traité repose sur un serment solennel qui, je trouve, révèle vraiment l'évolution intérieure de Jacob.
Ah oui, sur quel aspect ?
Le texte précise qu'au moment de conclure, Jacob prête serment par « la crainte d'Isaac ». Sur le plan littéraire, c'est une métonymie extrêmement fine.
Une métonymie, tu peux rappeler ce que c'est ?
Oui, une métonymie consiste à désigner une chose par un terme qui lui est logiquement lié, prenant souvent l'effet pour la cause. Ici, Jacob ne nomme pas Dieu directement, il nomme l'effet viscéral que Dieu produit sur son père Isaac et désormais sur lui-même. C'est-à-dire une crainte respectueuse, un effroi sacré.
Ah, d'accord. Donc, c'est un peu comme utiliser l'expression « la couronne » pour désigner l'autorité du roi.
Exactement, c'est la même mécanique.
En choisissant cette expression très précise, Jacob montre qu'il a changé, en fait. Il n'est plus ce jeune manipulateur qui, à Bethel, essayait de négocier avec Dieu comme s'il signait un petit contrat commercial du type « si tu me nourris et me protèges, alors tu seras mon Dieu ».
Il a mûri.
Après 20 ans dans la broyeuse de Laban, après avoir vu comment la justice divine l'a préservé face à un adversaire bien supérieur en ruse et en puissance, son rapport au sacré s'est épaissi. Il est passé du marchandage à la révérence profonde.
Exactement. Et cela nous offre la clé de lecture globale de toute cette épopée narrative. Isoler ces chapitres du reste du récit serait une erreur de méthode fatale pour ceux qui nous écoutent.
C'est-à-dire ?
Il faut voir grand.
Ouais.
Si on analyse la vie de Jacob à la loupe, uniquement pendant ses 20 années chez Laban, on y voit juste une série de dysfonctionnements moraux, de l'extorsion, une polygamie fort toxique et des croyances carrément superstitieuses. On pourrait facilement se dire que le projet d'une lignée élue a lamentablement échoué.
C'est vrai que vu comme ça, ça fait pas très sain.
Or, la vision d'ensemble démontre que la providence avance à travers la boue de la réalité humaine. Les souffrances imposées par Laban et les propres manigances de Jacob ne sont pas des accidents de parcours. Elles deviennent les matériaux mêmes de la transformation de Jacob. Ça l'affine pour son rôle futur.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond, si on prend du recul ? Cela pousse vraiment à réfléchir sur la manière dont l'histoire, la grande comme la petite, est véritablement construite.
C'est très vrai.
On se dit souvent que les fondations des grands mouvements ou des nations devraient être super pures, portées par des figures irréprochables. Pourtant, l'analyse montre que tout repose ici sur des individus profondément faillibles. Des gens qui luttent pour survivre à une période chaotique, avec les moyens imparfaits dont ils disposaient, que ce soit la magie sympathique ou les vols d'idoles.
Avec leurs défauts et leurs qualités.
Et si ce constat s'applique à des textes fondateurs millénaires, je me dis que ça questionne aussi notre propre rapport à l'échec. Quiconque traverse un chapitre désordonné, une période qui semble n'être qu'une succession d'erreurs et de tensions inextricables, a tendance à la juger comme un désastre définitif.
On est souvent trop dur avec nous-mêmes.
Grave. Mais peut-être que ce qui ressemble sur le moment à un brouillon complètement raté n'est en réalité que l'esquisse tumultueuse d'une œuvre à long terme. On veut toujours que le tableau soit parfait du premier coup, mais bon, les transformations les plus durables commencent apparemment toujours par des lignes brisées, des couleurs qui débordent et un chaos temporaire. Voilà, c'est tout pour l'exploration de cette fascinante séquence historique. On se retrouve très vite.